les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Au programme du dossier d'aujourd'hui, un monument de la culture française, tant romanesque que télévisuelle. On vous parle aujourd'hui, en compagnie de Sarah, des Rois Maudits.
On peut même parler de deux monuments, un dans les années 70 et un maintenant. Mais bon, je suis pas sûre que le mot monument vaille pour les deux. Alors, on va commencer peut-être par réexpliquer d'où ça vient et un peu l'histoire, parce que comme ils ont tous raconté la même histoire, ben, au moins ce sera fait. C'est Maurice Ruon donc, qui a écrit le roman, qui a été publié entre l'année 55 et l'année 77. En tout, l'œuvre compte 7 volumes. Je ne vais pas vous faire tous les titres, ce sont pratiquement ceux des épisodes, donc on les connaît tous. Et en fait, ça raconte l'histoire de la monarchie française depuis Philippe le Bel, donc Philippe IV, jusqu'à la guerre de Cent Ans. Donc en gros, c'est le XIVe siècle et le XVe siècle. L'histoire débute donc durant le règne de Philippe le Bel, alors qu'il tente d'écraser l'ordre des Templiers. Il y arrive, donc il y a un procès gigantesque durant lequel il brûle la plupart des Templiers convaincus d'hérésie. Et l'un des chefs, Jacques de Molay, lance une malédiction sur Philippe le Bel, sa descendance, ainsi que sur Guillaume de Nogaret et le pape Clément. C'est là-dessus que commence, enfin, pas vraiment en tant que tel, puisqu'on raconte un peu l'histoire avant, mais c'est durant cet épisode-là que se lance réellement l'histoire qui va suivre.
Et c'est clair qu'on va voir au fur et à mesure que les rois sont effectivement maudits.
À commencer d'ailleurs par Philippe IV, qui meurt dans l'année, ainsi que Guillaume de Nogaret et le pape Clément. Ensuite, les successeurs au trône, comme tu viens de le dire, effectivement, sont pas très chanceux parce qu'ils meurent d'assassinat, de maladie, généralement sans avoir donné d'héritier au royaume, et donc ça pose pas mal de problèmes vu que les filles ne peuvent pas accéder au trône, et donc il faut trouver un moyen plus ou moins légal et plus ou moins logique pour trouver un roi. Alors l'intrigue des rois maudits se focalise évidemment sur les convoitises, sur les ruses provoquées par ces moments de succession un peu difficiles, et on suit cela jusqu'à la guerre de Cent Ans. Les personnages centraux sont évidemment Philippe le Bel durant le premier épisode, mais aussi ses fils et sa fille, donc Louis X, Philippe V, Charles IV et Isabelle de France, mais aussi la branche Valois qui va succéder aux descendants de Hugues Capet. Et évidemment, à côté de ça, on retrouve des barons, des membres du clergé et Robert d'Artois, le personnage central par lequel, en tout cas, on suit les événements. On apprend sur le site officiel des Rois Maudits de 2005 qu'en fait Maurice Druon voulait surtout écrire une biographie des 13 rois issus de la branche de Valois, donc ce qui se passe après les Rois Maudits. L'ampleur de la tâche a été telle qu'il s'est arrêté là, et donc finalement il dit que ça n'est jamais que le prologue d'une œuvre qui n'a jamais vu le jour. Résultat, ça marche très bien au niveau des bouquins. Et dans les années 70, plus précisément en 72, Claude Barmat réalise la version télévisuelle des Rois Maudits. C'est Marcel Julien qui signe l'adaptation de l'œuvre au petit écran. Marcel Julien, c'était un scénariste qui avait travaillé auparavant avec Gérard Oury, notamment sur Le Cornuau, La Grande Vadrouille ou La Folie des Grandeurs. Claude Barmat, c'est le réalisateur de Belphégor notamment, donc c'est quand même un grand nom à l'époque. Il réalise donc les 6 épisodes qui durent 100 minutes à peu près et qui sont diffusés en 72 et en 73.
Et qui seront un franc succès.
Et qui seront un énorme succès même, on peut dire. Et qui racontent exactement la même histoire que la version écrite. Sauf que, comme le dernier volume sort en 77, comme c'est en 72, le dernier volume n'a pas encore été écrit, donc on ne tient pas compte de celui-là. Mais autrement, les 6 épisodes reprennent scrupuleusement les 6 premiers volumes. Et on sait d'ailleurs que l'écrivain a eu un droit de regard sur les scénarios, qu'il était assez content du résultat apparemment, puisqu'il parle toujours sur le site officiel des Rois Maudits sur France2.fr. Il parle de ferveur, qu'il les remercie, toute l'équipe, pour la rigueur, la ferveur dans laquelle ils ont mis son œuvre à l'antenne. Vraiment, il se met avec eux. Il dit « J'attends avec eux le verdict du public à l'époque » et donc il fait réellement partie de l'équipe.
Un homme aussi puissant et aussi averti que Messire Enguerrand ne s'est pas risqué à mettre les mains dans les coffres du roi. S'il a trafiqué, c'est d'une manière plus savante.
Alors qu'avez-vous à proposer pour en venir à bout? Attention, banquier, c'est une chasse à mort.
Quand on ne peut abattre son ennemi de face, il faut lui serrer la main et se préparer à l'attaquer de flanc. Et le flanc de notre adversaire, c'est la province, là où ses gens agissent loin de ses regards.
Vous en savez plus long que vous ne dites, messire.
Non, je dis simplement qu'il se pourrait bien qu'en certains endroits, la moitié seulement des tailles perçues parvienne au trésor. Et si j'en crois mon neveu Guccio qui revient de Naufle, ce qu'on ne prendrait point en argent, on le prendrait en vivres, qu'on revendrait à des prix prohibés.
Ainsi donc, Marie n'y toucherait. Vous en êtes sûr?
Sinon lui-même, ses commis, peu importe, on touche. Je sais un prévaricateur qui, confondu, peut faire un excellent témoin, ou mieux, même un faux témoin. Essayez surtout, monseigneur, d'avoir le bas peuple avec vous. Aujourd'hui, il crève de faim. Offrez-lui un responsable à sa misère. Un merveilleux allié, le peuple. On se sert de lui et après, on ne lui doit rien. Demandez au roi d'ouvrir une enquête.
Ce sera difficile. Pour l'instant, il est tout entiché de Marigny et de son frère l'archevêque, dont il attend un pape.
Je me charge de l'archevêque, monseigneur.
De quelle arme disposez-vous contre celui-là?
Mieux qu'une arme. Une muselière.
Tous les acteurs qui sont là sont des acteurs issus du théâtre. À l'époque, c'est une valeur importante. C'est d'ailleurs encore l'habitude à la télévision à ce moment-là. Maintenant, du coup, évidemment, ça donne un côté très théâtral à la manière de jouer avec laquelle on n'est pas habitué du tout. Christophe Petit, d'ailleurs, dans le guide totem des séries télé, dit que Jean Piat jure, hurle, rit grassement et éructe. Et c'est vraiment ça, quoi. Quand on regarde Les Rois Maudits, c'est... on voit qu'il a voulu donner du corps à son personnage.
On a vraiment, oui, un côté très théâtral de la manière dont les acteurs interprètent leur rôle. Et en plus, les décors sont réduits au strict minimum, à savoir une table, des chaises et... Côté de nouveau très théâtral, les fonds d'écran sont des fonds de scène,
oui.
Des toiles peintes.
D'abord, il n'y a pas d'extérieur, ce qui nous choque, nous, avec l'œil actuel qu'on peut en avoir. Parce que sortir une caméra à l'époque, c'était pas possible. Les techniques ne le permettaient pas. Et effectivement, on a des décors qui font un peu carton-pâte, mais d'un autre côté, à l'époque, ça avait été vu comme quelque chose d'extrêmement bien fait, pas novateur, mais en tout cas avec énormément de moyens, puisque on peut lire dans le livret de l'édition DVD, par exemple, qu'il y avait eu 25 000 mètres de tissu nécessaire pour faire ces fonds. Donc c'était de la toile, on avait peint les décors sur de la toile, dont 16 000 étaient peints, ce qui à l'époque est énorme. Et donc c'est une manière de faire véritablement de la télévision à ce moment-là. Il faut se remettre dans le contexte aussi, les caméras sont pas aussi mobiles que maintenant. Or, on a des mouvements de caméra dans Les Rois Maudits version années 70, on a des travelling par exemple qui dynamisent certaines mises en scène. Et donc on voit qu'effectivement il y a quand même eu des techniques de pointe, à l'époque de pointe, appliquées à cette série-là. Maintenant c'est vrai que ça fait très théâtral, notamment parce que les personnages se placent dans l'espace comme s'ils étaient sur une scène, on les voit bouger comme s'ils étaient sur une scène.
Cette manière d'en faire un peu trop.
Voilà, et où vous voyez, ils regardent dans le vide, par exemple, ils regardent juste à côté de la caméra en disant des phrases.
Le cliché être ou ne pas être, telle est la question, avec le crâne dans la main. C'est franchement, on a l'impression de se retrouver devant ça quelque part.
C'est tout à fait ça, et on a aussi droit à... On s'imagine que le langage parlé à l'époque était ça. J'ai lu, je ne sais plus où, qu'en fait, ils parlaient comme des académiciens et que ce n'était pas du tout le cas au Moyen-Âge. On était bien au Moyen-Âge et pas dans une séance de l'académie. Donc effectivement, il y a des choses un peu rigolotes.
Est-ce qu'on pourrait dire, en allant un peu plus loin, que le parler qu'on entend dans Kaamelott notamment est plus proche de la vérité que ce qu'on entend dans Les Rois Maudits?
Oui, probablement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'ouverture de chaque épisode, parce qu'en fait on a un plan très large qui se resserre sur les personnages, où les acteurs sont tous là, disposés dans un espèce de tableau. Ils sont figés, donc ils bougent pas, mais c'est pas un plan fixe parce que ça n'existe pas à l'époque, donc on les voit de temps en temps bouger, ils tiennent pas droit, etc. Et en fait on explique ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et on lance déjà ce qui va suivre, mais ça paraît très bizarre. Et alors quand on le passe en vite, évidemment on les voit bouger d'un pied sur l'autre, mais à l'époque c'était une ouverture prestigieuse quand on montrait le nombre d'acteurs qu'on avait et le nombre de moyens qu'on avait.
Les acteurs étaient tous réunis pour le bonheur du spectateur.
Donc ceci montre bien qu'on est bel et bien face à un feuilleton de prestige de l'époque, qui a été reçu comme ça d'ailleurs par les gens. C'est aussi une fiction historique. Alors là on se pose plein de fois les questions: est-ce que les Rois Maudits sont réellement réalistes par rapport à l'époque ou pas? Alors Maurice Druon dit lui que il a respecté la vérité historique, qu'il a fait des hypothèses psychologiques sur les personnages, mais qu'il a respecté la vérité historique. Maintenant, il y en a notamment encore Christophe Petit dans le guide Totem, dit que effectivement, les Rois Maudits affirment là où on a l'histoire laisse le doute. On ne sait pas finalement si par exemple Marguerite de Bourgogne est morte étranglée ou pas. Elle est peut-être morte naturellement, on n'en est pas sûr. Donc vérité historique, je ne suis pas sûr. Il existe d'ailleurs, un peu comme pour le Da Vinci Code, un livre, Les Rois Maudits, l'enquête historique, qui dissèque la fiction par rapport à la réalité, qui a été écrit par Éric Le Nabour, qui a surfé un peu sur la promo de l'an dernier, en 2005. Et donc ceux qui s'intéressent peuvent aller voir là. Maintenant, l'important, c'est un peu de voir les choses remises en contexte. L'important, effectivement, la vérité historique, elle est probablement là, plus ou moins. Il faut savoir qu'à l'époque, ce feuilleton a eu un tel succès que du coup, il y a eu plein de feuilletons historiques qui sont arrivés après Les Rois Maudits. Il y a eu Les Mohicans de Paris, Schlumeister, l'espion de l'Empereur, Mandrin, Le Chevalier de Pardillan, La Dame de Montsoreau, etc., 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 qui sont arrivés sur les écrans.
Mais tout un ensemble de shows qui n'ont pas eu le succès aussi retentissant des Rois Maudits, puisque Les Rois Maudits, malgré la récente version, on parlait encore récemment de la version des années 70.
Ça fait partie des grands mythes, effectivement, de l'ORTF à l'époque.
Au même niveau que Belphégor, quelque part.
Ami banquier, il me faut ce document dont vous m'avez parlé un jour, qui compromet le frère de Marigny. Monseigneur de Valois en a besoin, sur le champ.
Enfin, sur le champ comme vous y allez, Monseigneur Robert. Vous me demandez de me dessaisir d'un outil qui vous a déjà sauvé la vie une fois, mes amis et moi. Non, et puis j'ai bien réfléchi. Les coutumes de Saint-Louis qu'on est en train de remettre en vigueur sont vraiment excellentes pour le royaume. Toutefois, je souhaiterais vivement qu'on en acceptât les ordonnances sur les Lombards. Dans le passé, elles furent cause de la réquisition de tous nos biens. Et nous obligèrent à quitter Paris. Mes amis sont inquiets, je dois être en mesure de les rassurer.
Et voyons, banquier, Monseigneur de Valois vous l'a dit, il vous soutient, il vous protège.
Oui, mais s'il pouvait présenter au roi une requête pour, en quelque sorte, confirmer nos privilèges, et que le roi la signe naturellement, eh bien, je mettrais volontiers dans vos mains de quoi on voyait pendre ou brûler Marigny, aujourd'hui ou demain, et confiance.
Votre charte sera signée demain, je m'y engage.
Monseigneur Valois n'est point en mesure d'attendre une journée?
Non.
Alors c'est qu'il a fort perdu dans la faveur du roi, et ceci... ceci est mauvais pour lui, mais également mauvais pour nous.
Assez joué, Ptolémée. Donnez-moi ce parchemin compromettant. Il ne s'agit pas de dénoncer l'archevêque, il s'agit de le faire chanter.
Vous voulez vous servir du frère pour attaquer le frère?
Oui.
Bonne idée, je pense que cela peut réussir.
Alors donc la version de 2005, elle a été diffusée en novembre et en décembre sur France 2. La nouvelle version compte cette fois 5 épisodes qui font à peu près 90 minutes. Le casting est tout aussi prestigieux, puisqu'on a Gérard Depardieu et toute sa famille, Jeanne Moreau, Philippe Torreton, Jean-Claude Brialy, Lynn Renault, pour ne citer que. Donc c'est quand même pas des noms au départ très mauvais. Ceci dit, apparemment les téléspectateurs ont très vite déchanté, parce que si le premier épisode est parti avec 8 millions et des de téléspectateurs, le dernier est arrivé à 6 millions, ce qui fait que, alors que Les Rois Maudits étaient la meilleure audience de la soirée dans laquelle il était diffusé au départ, c'est les cordiers de TF1 qui sont repassés avant pour la fin de l'épisode. Donc en 5 épisodes, Les Rois Maudits ont perdu 30% de leur auditoire, ce qui est quand même un peu énorme et ce qui pose question.
Alors concrètement, qu'est-ce que José Dayan a foutu?
On peut se le demander. Finalement, José Dayan, c'est celle qui pour le moment fait ces grandes séries dont tout le monde parle. Elle avait commencé par La Rivière Espérance, Les Misérables, Le Comte de Monte-Cristo, Balzac, tout ça, c'était elle.
Un truc un peu pompier, pompeux.
J'ai lu des mots flamboyants à certains moments, c'est vraiment ça. Ce qu'elle voulait faire, c'est elle qui a eu l'idée de reprendre Les Rois Maudits, et non pas la chaîne, parce qu'elle avait été fascinée par la peinture du pouvoir que faisait Maurice Druon dans ses livres. Et elle voulait en proposer une relecture plus moderne, puisque le monde actuel, dit-elle, et ça c'est toujours sur le site officiel de France 2, le monde actuel est plus noir et moins austère, et donc elle avait envie de mettre cette histoire à l'épreuve d'un imaginaire et de techniques qui ont connu depuis Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, donc un peu relever tout ça, quoi.
Mais c'est quand même pas très réussi.
Non, c'est pas très réussi, ça c'est un fait. Déjà, basiquement, c'est la même histoire, on est bien d'accord. Sauf qu'il y a 5 épisodes au lieu de 6, on a enlevé la loi des mâles, qui était le quatrième épisode, je pense, mais les événements narrés sont identiques. On ne change rien du tout à l'histoire. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits passages qui diffèrent un peu, des scènes qu'on ajoute ou des scènes qu'on retire ou des scènes qu'on raconte autrement, mais la globalité est toujours la même. On va même parfois jusqu'à garder des plans de transition qui sont ridicules. À l'époque, si vous voulez, pour signifier le déplacement, ils avaient filmé les chevaux, un cavalier sur un cheval qui passait dans un champ, et c'était en gros plan sur les pattes du cheval. On voyait juste le pied du cavalier, les pattes du cheval. On peut imaginer qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, les grues, etc., on aurait pu faire ça autrement. Non, ils ont repris textuellement ce plan-là, alors que ça n'a aucun sens actuellement. Donc, ils le reprennent à la lettre. Par contre, ce qu'ils ne reprennent pas du tout, même s'ils reprennent l'histoire, c'est l'esthétique. On retrouve déjà d'abord des extérieurs, évidemment. On ne peut plus aujourd'hui faire une série comme ça sans extérieurs. Maintenant, ce sont souvent des extérieurs de début de séquence, donc on voit le château dans lequel ça se passe, des choses comme ça. Maintenant, il y en a certains qui sont impressionnants, comme le Mont Faucon où on peint Marigny, par exemple. Et assez impressionnant visuellement. Donc déjà, on a des extérieurs. Les décors sont plus du tout peints sur des toiles. Et ça n'est plus du tout le même genre de décor. Donc, c'est Philippe Drulliet, qui est un dessinateur de BD, spécialisé dans l'heroic fantasy et la science-fiction. Pour ceux qui s'intéressent, allez voir sur son site officiel, c'est philippedrulliet.com. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il a déjà fait.
C'est un peu gothique comme univers.
Oui, c'est tout à fait gothique. Il a été chargé par José Dayan de revoir tout à fait le décor dans une optique futuriste. Des lieux surdimensionnés où les personnages, dit-elle, apparaissent pour ce qui sont des êtres vulnérables, écrasés et accablé par le poids de l'histoire et de la malédiction. Et en gros, ils font fort penser aux métropolis de Fritz Lang, par exemple. Donc, les expressionnistes allemands, ça se sent dans la forme des barreaux, l'utilisation des formats géométriques, par exemple, des grandes pièces surdimensionnées avec des grandes statues. Et ça ne fait pas du tout Moyen-Âge, évidemment, on est bien d'accord. Alors, dans le même genre d'idée, on retrouve aussi des costumes tout à fait décalés. Et là, c'est Mimi Leptica, qui de nouveau a été chargée par José Dayan. Donc c'est elle qui est le maître d'œuvre de tout ça, de revoir effectivement et de s'éloigner des clichés d'un Moyen-Âge triste et grossier. Autant les habits et les costumes de la première version collaient assez bien à l'époque et étaient, moi je trouve, assez réussis. C'est vrai que c'était des petits tissus lourds, etc., mais c'est l'époque qui veut ça. Autant cette fois-ci, on a des trucs vaporeux, des voiles, qui finalement, bon, sont peut-être très jolis quand on a vu Le Seigneur des Anneaux, on essaye de faire pareil, mais qui collent pas du tout, moi je trouve, ni à l'époque, ni au propos. On a même un Robert d'Artois, voyez-vous, habillé en rouge avec une veste en cuir, comme ça, ça fait un peu penser au Michael Jackson de Bidette et de la grande époque, c'est un peu décalé, je trouve. Enfin bref, Dayan a voulu faire quelque chose de plus heroic fantasy, elle l'avoue. Elle cite plusieurs fois Le Seigneur des Anneaux sur le site internet. Pourquoi pas ? D'ailleurs, le générique même fait penser à ça. Le générique est complètement différent. C'est effectivement un générique qui fait penser à quelque chose du genre du Seigneur des Anneaux. C'est un choix, et au moins elle a été à fond dans son choix, mais moi ça me semble pas le bon, tout simplement parce qu'on colle quand même à une époque, on reprend une réalité historique, et surtout parce qu'on l'avait déjà fait avant. Alors faire ce choix sur une réalité historique, s'il n'y avait pas eu de version en 70, à mon avis ça serait passé, mais comme on a la version 70 en tête, ça paraît un peu trop décalé. Ceci dit, Maurice Ruon a adoré cette nouvelle version. Maintenant il a peut-être adoré les royalties aussi, ça j'en sais rien. Moi, ce qui m'énerve le plus, finalement, là-dedans, c'est que, alors qu'on peut se dire que cette version va laisser de côté le théâtral, les pudibonneries, parce que parfois, on a des filles qui sont dépravées, mais bon, ce qu'elles font, c'est pas très dépravé, les effets de manche, etc., autant on peut se dire qu'on va effacer tout ça et faire réellement une version moderne, autant non, ils singent justement le côté théâtral un peu. Mais on sent qu'ils sont pas tout à fait à l'aise finalement avec ce genre théâtral. Philippe Torreton est bien moins charismatique que Jean-Pierre, ça je l'ai déjà dit. Lynn Renault, qui joue la mère de la future reine de France, semble pas connaître son texte. Guillaume Depardieu a l'air d'être préoccupé par autre chose. Et Jeanne Moreau, alors là je pense que je vais me faire des ennemis, moi je trouve personnellement qu'elle est pas top. Je trouve qu'elle commence un peu à se caricaturer elle-même. Mais donc, je trouve qu'au niveau jeu d'acteur, c'est pas génial. Je vais même jusqu'à dire que j'ai finalement préféré la version de 70 théâtrale que la version de 2005 qui se dit pas théâtrale, mais qui l'est quand même et qui paraît vraiment atypique. Finalement, je me demande s'il n'aurait pas mieux fait de rediffuser l'ancienne version avec un documentaire qui expliquait, par exemple, comment on faisait la télé à l'époque, ou pourquoi on avait fait les choses comme ça, que de refaire une nouvelle version. Et puis alors moi, je me demande aussi, José Dayan, qui parvient bien à s'entourer, parce que attention, je dis que les costumes et les décors sont décalés, mais je trouve qu'en soi, ce sont des beaux costumes et des beaux décors. Il y a juste qu'ils ne fonctionnent pas bien avec l'histoire. Donc elle sait s'entourer, elle sait faire passer ce qu'elle veut, elle sait communiquer son enthousiasme à une équipe. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas communiqué et développé autant d'énergie sur un truc de neuf, finalement? Pourquoi avoir repris Les Rois Maudits? Si elle voulait faire une épopée moderne, une heroic fantasy à la française, elle avait tout à fait les moyens de le faire, tout simplement, et de créer quelque chose plutôt que de reprendre Les Rois Maudits. Et c'est casse-gueule dès le départ, hein. On reprend Belphégor, ça fonctionne pas. On reprend les rois maudits, à mon avis, ça fonctionne pas. Donc je sais pas très bien. Je sais pas ce que d'autres personnes en ont pensé, mais manifestement, vu la désertion des téléspectateurs, je suis pas la seule à penser ce genre de choses. Voilà pour mon avis. Donc si vous hésitez encore, moi je vous conseille de louer le DVD de l'ancienne version et pas la version 2005.
Ce sera mieux pour votre culture.
Ce sera mieux, voilà.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.